Cinérama.
Cette nuit, notre plastron émetteur a été saboté.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Espèce de sac à poutre.
Je t'aime.
Tu vas rôter du sang.
Cinérama.
Défense de rire et défense de pleurer.
Moi, ce qui me fait chier, c'est les effets spéciaux minables. Je supporte plus.
Je suis ton père.
Un très beau film.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Je dois reconnaître que vous affirmez des choses plutôt incroyables et qui devraient être vérifiées.
Cinérama.
Bon, en piste, les louloutes.
Actualité cinéma et tout le reste sur Divergence FM.
Bonjour, nous sommes le mercredi 19 février. Il y a des microbes dans le studio, puisque voilà, on vient d'entendre tousser Arnaud, notre invité. Bonjour.
Bonjour.
Arnaud, directeur du cinéma Utopia. Et puis, il y a Manu.
Bonjour.
Et il y aura bientôt Marine, mais pas encore aujourd'hui. On va parler très largement du cinéma Utopia. Forcément, on va en profiter. On parlera de La Nuit Fantastique. C'est le volume 1 qui se prépare et qui se déroulera ce samedi. C'est toute une nuit fantastique. Donc, il y aura 5 films. C'est ça, Manu, pour résumer ?
Oui, 5 films.
Voilà. Donc, on en parlera. On écoutera les extraits. Et puis, alors on pourra parler du cinéma aussi Utopia. Et on s'amusera avec son directeur, donc avec un petit blind test en écoutant 5-6 films qui sont passés au cinéma Utopia cette année. Et je ferai grâce de certains titres, notamment le bon film grec qui était passé cet été. Voilà.
Je sais que j'aurais jamais dû venir.
Il n'y sera pas. Allez, mais avant tout ça, c'est La Belle et la Bête.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Cinérama.
Connerie, je vous dis. Et même saloperie. Hein.
Sur Divergence FM.
Alors, je préfère le dire tout de suite, hein, je n'ai rien contre Christophe Gans. Je compte même parmi les défenseurs du Pacte des Loups, un divertissement un peu, c'est un peu n'importe quoi, mais assez foutoir, mais qui réactivait un esprit feuilletonesque des romans de Gene Su à la série des Angéliques, matinée de référence au cinéma de Hong Kong et aux bis italiens, Mario Bava et Riccardo Freda en tête. Alors, une relecture de La Belle et la Bête, sans être indispensable, n'est pas en soi l'idée la plus idiote. Il s'agit tout de même à la base d'un magnifique conte qui a engendré une série de films plus ou moins réussis. Évidemment, celui de Cocteau est une merveille, en dépit de la présence un peu défaillante de Jean Marais, qui ne compte pas parmi les plus grands acteurs du cinéma. Récemment, il y a une vingtaine d'années, il y a eu une petite série B qui s'appelait Meridian de Charles Bands, avec l'actrice de Twin Peaks, qui était une relecture plus érotique du conte. Alors, plus étoffé, selon les dires du réalisateur, proche de l'œuvre originale de Gabriel Suzanne de Villeneuve, La Belle et la Bête version 2014 intègre des péripéties et des événements dans un esprit proche de l'héroïque fantasy, absent de l'adaptation de Cocteau. Au fond, très épuré, car attaché à la relation amoureuse entre La Belle et la Bête.
Il était une fois un riche marchand dont la fille préférée s'appelait Belle. Lors d'une terrible tempête, le marchand perdit sa fortune et sa famille se trouva ruinée. Mais la chance leur sourit à nouveau.
Mes enfants, je pense qu'on les sauver.
Il nous faut des nouvelles robes, du parfum et...
Un verniste. Surtout, n'oubliez rien.
Et toi, qu'est-ce que je te ramène?
Je voudrais juste une rose.
Égaré dans la forêt, le marchand fit une découverte extraordinaire.
Y a quelqu'un?
Incroyable, tout y est. Enfin, presque.
Qui allait changer la vie des siens.
Mes cadeaux ne te suffisent pas? À qui est destinée cette rose?
À la plus jeune de mes filles.
Il a dit, une vie pour une rose.
Si vous ne lui obéissez pas?
Alors on mourra, tous.
Bête! Non, père!
Guide-moi jusqu'au château et conduis-moi jusqu'à cette bête. Je m'appelle Belle. Je suis venue échanger ma vie contre celle de mon père.
Ne pense même pas à t'échapper.
L'ex-critique, un rédacteur et créateur d'ailleurs de la mythique revue Starfix, bon, est bardé de bonnes intentions, de références cinéphiliques audacieuses et de réflexions pertinentes sur le cinéma de genre, notamment quand il est interviewé. Le problème est que tout reste au niveau des intentions. Bon, son film est vraiment un ratage, hein. Un sommet de pompierisme visuel accumulant les fautes de goût impardonnables. Alors l'échec de cette super production française, que l'on souhaiterait au fond aimer, vient en premier lieu d'une terrible erreur de casting. Alors si Vincent Cassel fait du Vincent Cassel, jouant la bête de la même manière, ce que je disais tout à l'heure, de la même manière qu'il prête sa voix au tigre dans L'Âge de glace. Alors Léa Seydoux, tout juste sortie de son rôle de La vie d'Adèle, n'est pas l'actrice idéale pour interpréter la belle. Son regard assez dur, intransigeant, du moins dans le film, ses intonations très sèches sont à mille lieues de ce qu'on imagine d'une jeune fille douce et naïve. Le décalage aurait pu être intéressant si c'était volontaire, ce n'est pas le cas. Du coup, rien ne passe, aucune émotion, pas de vibration. Enfin, on a un peu l'impression que Christophe Gans souhaite réitérer le succès du Pacte des Loups à la manière d'une recette. À l'époque, il avait engagé donc Émilie Dequen, qui sortait de Rosetta, des frères Dardenne. Donc cette volonté de prendre des acteurs issus du cinéma d'auteur dans des gros films populaires est plutôt une bonne idée, mais encore faut-il leur donner de vrais rôles. Car si Seydoux est mal dirigé dans un rôle qui ne lui convient absolument pas, c'est un peu comme si Brigitte Lahaie jouait Jeanne d'Arc, ou les absents toujours tort, Marine, on lui proposerait un rôle dans pour Mère Teresa, par exemple. Enfin, en fait, ça passe pas du tout. Hein. Donc après, la bête demeure, bon, il y a un produit assez froid, aseptisé, dans lequel Gans oublie l'essentiel, c'est raconter une histoire, et surtout une histoire d'amour. Hein. Et il a préféré miser sur l'action trépidante, les rebondissements et la débauche d'effets visuels au détriment de la cohérence narrative et d'un trouble érotique que peut susciter une telle histoire, surtout à notre époque. Là, totalement absent. Elle est très, très habillée, Léa Seydoux. Hein.
Surtout à notre époque, surtout à ton surtout âge, Manu.
Surtout à mon âge. Bon, alors, c'est pas, j'appellerai pas ça un nanar. Hein. Gans fait toujours preuve d'un sens du cadre. Il y a des magnifiques images. Il y a quelques séquences esthétiquement réussies. Alors, la référence la plus évidente, c'est pour moi Légende, plus que le film de Cocteau. Hein. Mais Ridley Scott imposait quand même un univers magique et crédible, entièrement tourné en studio. Là, Gans tombe dans les pires travers des croûtes numériques. Alors, voilà, en dépit de ses qualités plastiques, La Belle et la Bête ne parvient jamais à transcender son aspect formel. Hein, et c'est un exercice de style vain, plombé par aussi des références que je trouve très, très appuyées, notamment à Miyazaki. Il y a des espèces de petites bestioles qui ressemblent avec des grands yeux, entre des gremlins et des personnages de manga. Et je trouve que tout ça tombe à plat. Et puis surtout, je crois que Gans, il n'a pas progressé depuis 15 ans, 16 ans. C'est le Pacte des Loups, 15 ans, hein, je crois que c'était 99. C'est-à-dire que les défauts qui étaient apparents dans ce film sont réitérés à foison, c'est-à-dire que les ralentis accélérés, son incapacité à raconter une histoire.
Mais on va dire que c'est son style. Pour le coup, si ça n'a pas changé.
C'est ce qu'il aime faire, en tout cas. C'est quand même des défauts. Lui-même était conscient de ses défauts à l'époque, et puis il les refait. C'est assez étrange.
Comme quoi, on oublie tout. Voilà. Ce sera la conclusion, et on oublie même d'aller voir La Belle et la Bête, qui passe quand même au Gaumont.
Oui, non, ça passe pas à Utopia, je crois pas.
Non, mais il passe au Gaumont Royal.
Gaumont Royal, Odysseum,
CGR.
Un peu partout.
Ah oui, un peu partout. Et en VF.
Et en VF.
C'est normal.
Non, mais c'est
si vous aimez les essuie-glaces et les tranquillisants sur pellicule,
Cinérama,
je suis allergique,
sur Divergence FM.
Et blablabla, et blablabla. Donc Arnaud, notre invité, avec qui on va parler de la Nuit Fantastique, mais on va aussi en parler avec Manu qui l'organise et qui a
choisi
les films. Tu le présentes, voilà.
Voilà.
Alors, c'est quoi le concept? Voilà. Ça, c'est les premières questions. Le concept, ça, c'est important.
Le concept, il y a un concept? Oui, il y a un concept, il y a une idée, en tout cas une idée, une envie de se faire plaisir, en passant des films. Exploiter du cinéma fantastique en salle, c'est un petit peu compliqué, ça marche pas toujours, faut trouver un créneau, faut trouver un moyen. Et j'ai bossé dans d'autres salles qu'Utopia à Montpellier, et c'est quelque chose qu'on avait mis en place, mais depuis une vingtaine d'années, notamment à Avignon. Et rituellement, tous les ans, il y avait comme ça une nuit qui était consacrée au cinéma fantastique, où on se fait plaisir, en fait. L'idée, c'est de panacher le maximum, de prendre vraiment le cinéma fantastique au sens large, d'essayer de prendre du cinéma de répertoire, du cinéma récent, sympathique, mais qui n'a pas marché, du cinéma, voilà, essayer de viser un petit peu dans toutes les directions, de faire une petite programmation de 5 films sur une nuit, d'entrecouper ça d'animations diverses, variées, pas forcément très très fortement préparé à l'avance, un petit peu bricolé, mais voilà, s'amuser et puis balancer ça et faire la fête ensemble.
Alors qui a choisi les films? Comment ça s'est passé? Est-ce que c'était compliqué de faire le choix de 5 films, sachant que ce sera la première nuit fantastique et qu'il y en aura forcément une autre?
Il y en aura très probablement d'autres derrière. Dès qu'on se met à plus d'un autour d'une table pour faire la programmation, c'est forcément compliqué. Voilà, donc là on s'était déjà mis les 4 d'Utopia Montpellier autour d'une table pour choisir les films, et on a eu la bonne idée de s'adjoindre les services d'un cinquième comparse, donc de Manu. Oui, parce qu'on s'est dit que s'engueuler à 4, c'était pas très intéressant, valait mieux s'engueuler à 5, donc on s'est mis à 5 pour choisir ces films ensemble.
Donc il y a eu du.
Mais c'est moi qui décide à la fin quand même. Faut pas non plus déconner.
Vote compte double ou.
Non, on vote pas. C'est moi qui décide.
Ok.
Et puis il y a la disponibilité des films.
Oui, voilà. Après, il y a plein de bonnes raisons, de bonnes raisons objectives de choisir des films plutôt que d'autres. On avait une shortlist de, je sais plus, 15 titres quand même à la fin, qui s'est réduit comme ça en fonction des disponibilités. Puis après, il fallait que ça. Les disponibilités des uns changeaient le. Enfin, faut que ce soit globalement cohérent. Quoi. Mmh. À un moment, on s'est rendu compte qu'on n'avait plus que des films américains, ça allait plus du tout. Mmh. Enfin voilà, il fallait qu'on arrive à panacher, à se faire plaisir aussi dans tous les styles, dans toutes les nationalités.
Eh ben, on va découvrir justement la programmation parce qu'on va aussi découvrir qu'il n'y a aucun film français. Mais ça, c'est presque pas surprenant parce que le film fantastique français n'est pas non plus un genre très très représenté. On est d'accord. C'est parti, premier extrait.
Qu'est-ce que c'est que ça?
Putain!
J'en sais rien, mais il y en a d'autres.
Il y en a beaucoup?
J'ai vu une gamine. Une zombie, comme lui. Mais il lui manquait un bras.
Oh mon Dieu. Patience. Le journal.
Bon, il faut qu'on se barricade.
Il a raison.
Faut rien oublier. Il faut barricader les fenêtres et les portes. Pour notre sécurité, peu importe ce qui se passe, il faut qu'on reste toujours ensemble.
Merde.
Calme-toi. Observe le maître à l'œuvre.
Voilà, donc ça c'est le premier extrait, film qui a été distribué il y a 2 ans, c'est ça ?
Il y a un an et demi, enfin presque 2 ans, hein, c'est juin 2012.
La cabane dans les bois.
Et que j'avais chroniqué ici d'ailleurs.
Hein, et que tu avais bien aimé, et qui est effectivement un film très réussi.
Moi je trouve que c'est un film très réussi, ça commence comme une mise en abîme un peu dans l'esprit des films de Wes Craven, hein, une sorte de slasher un peu post-moderne. Et puis, il y a un revirement au bout de 45 minutes qui, enfin, pour pouvoir rien dévoiler, pour ceux qui n'ont pas
là,
vu. Hein.
Là, avec l'extrait, peut-être qu'on peut sentir qu'il y a deux voix, qu'il y a des gens qui sont regardés, puis d'autres qui interviennent sur l'action. Voilà.
Oui, mais en plus de ça, ça bifurque vers quelque chose, de monstrueux. Un petit côté, j'avais souligné à l'époque, qui ferait presque penser à un petit côté Monstre Academy, version film d'horreur un peu.
C'est ça.
Et je trouve ça totalement étonnant.
Et donc, le choix évident pour celui-ci. En tout cas, ça débutera la soirée, hein, La cabane dans les bois.
Non, alors en fait, l'ordre des films, réellement, je pense qu'on décidera un quart d'heure avant samedi soir. On va voir. Okay. On va réfléchir. Là, on a mis un ordre un petit peu théorique. C'est peut-être même un ordre alphabétique, je n'ai pas vérifié. Non, pas du tout. C'est un ordre. Comme,
d'accord.
Comme c'est venu, comme c'était simple à mettre en place.
Et donc, La cabane dans les bois, vu, pas vu ?
Alors, oui, c'est incroyable, c'est le film de la sélection que j'ai vu.
En fait. D'accord.
Non, c'est. Mais parce que celui-là, j'ai peut-être aussi un petit peu insisté parce que j'étais allé le voir à la sortie, je ne sais même plus. C'est de façon très improbable, il était sorti qu'à Odysseum, je crois, sur Montpellier.
Et puis ça n'a absolument pas marché.
Et ça, voilà, je pense que sur Montpellier, on est 500 à l'avoir vu. Et encore, je suis peut-être généreux. Quoi. Ça a été un gros flop. Et un flop, pour moi, incompréhensible. C'est-à-dire que c'est un film qui est jubilatoire. Pour le coup, c'est tout à fait ce que nous, ce qu'on cherche pour ce genre de nuit aussi.
Réhabiliter,
parce que c'est un bien grand mot. Mais en tout cas, aller chercher un petit peu dans la poubelle ce que les gens ont jeté sans même y avoir goûté. C'est plus ça, alors que c'est pas forcément mauvais. Il y a des bonnes choses à prendre.
Un très bon casting avec des gros rednecks, un trou perdu, et puis voilà.
Et puis c'est une production quand même, Joshua Whedon, hein. Enfin, c'est lui qui est
le scénario.
Il réussirait, il aura eu plus de succès l'année d'après avec The Avenger.
Oui, c'est clair. Deuxième film.
Demain, à 22h39, vous assisterez peut-être à un spectacle effroyable. Nous recevrons en direct une jeune fille dont la vie est menacée. Des morts accidentelles étranges se succèdent, et à chaque fois, elles sont précédées d'un avertissement. Cette jeune fille en a reçu 2 sur son téléphone portable. Que va-t-il lui arriver? Comment va-t-elle s'en sortir? Quel sera son destin? Va-t-elle vivre? Va-t-elle mourir? Notre émission va-t-elle la sauver? Pour le savoir...
Ah, la mort en ligne.
On dirait une parodie, en fait, la bande-annonce.
C'est la version française aussi, peut-être, qui veut ça.
Peut-être qu'en japonais, ça fait moins.
Oui, c'est
moins
étonnant.
Ouais.
Donc, c'est Takashi Miike, le genre de type qui fait 2 films par an. Vous avez choisi donc La mort en ligne.
Qui est certainement l'un des films les plus sages de Takashi Miike, qui est quand même réputé pour sa folie. Hein, pour qui, pour les gens qui ont vu notamment sa trilogie comment ça
Dead or Alive.
Dead or Alive, c'est quelque chose. Hein,
ça même... se visite. Je sais pas si ça se programme, mais ça se visite.
Et là, il décide de se dire, bah, regardez, je sais faire des films un peu comme les autres, dans l'esprit un peu de Ring. Hein, c'est un film de fantôme, très classique, très bien réalisé. Et il prouve qu'il peut devenir un cinéaste au potentiel commercial comme les autres. Hein. Et c'est plutôt efficace.
Hein. Avec une tension, hein. C'est une des caractéristiques quand même du film fantastique, on est d'accord là-dessus. Il faut une tension.
Bah oui, il faut qu'il y ait un moment, on est un petit comme ça, un petit truc derrière l'épaule là, qui démange et qu'on ait du mal à se retourner. Ouais, c'est le principe. Bah, Mickey, il est assez fort pour ça quand même. Il peut aussi facilement faire sourire par moment et mettre un petit peu de distance et cueillir le spectateur dans le plan suivant et vraiment être glaçant, quoi. Voilà.
Oui, c'est ça. Des fois, on a l'impression même qu'il se moque de nous. Et puis, l'instant d'après, il est capable de composer des séquences absolument terrifiantes. Enfin, mais là, c'est plutôt classique. Ça ne représente pas Mick habituellement, à mon avis.
Un autre film qui sera dans cette nuit fantastique première partie, c'est quand même un grand film de genre.
Comment sais-tu que vous n'étiez pas seul, Tina et toi?
Parce qu'il l'a massacré sous mes yeux.
Il était pas foutu de le décrire.
Bordel, non, je l'ai pas vu, lui. Tout ce que j'ai vu, c'était les coupures. À chaque fois, une série.
Comment ça, une série?
Ben, c'était comme s'il y avait eu quatre lames de rasoir qui la tailladaient en même temps, mais on les voyait pas.
Visuellement très fort, ce film, il a marqué plusieurs générations. Ce sont Les Griffes de la Nuit de Wes Craven.
Et l'un des meilleurs, Wes Craven, hein, qui l'a surtout créé, le croque-mitaine le plus original qu'on ait vu depuis 30 ans. Enfin, hein, à côté, Jason ou même Michael Myers font un peu pâle figure. Hein. Il y a quand même une idée très, très originale à la base, c'est que c'est un tueur d'enfants à la base, qui agit dans les rêves d'adolescents. Et Wes Craven s'était inspiré à l'époque d'un fait divers, d'ailleurs.
Ah, de quelqu'un qui arrivait à rentrer dans les
Mais non, le personnage de Freddy Krueger a réellement existé. C'est un personnage, c'est la mauvaise conscience un peu d'un village qui a d'une petite ville. Hein, ça se passe à Elm Street, qui vont donc tuer une sorte de violeur d'enfants, hein, de violeur et tueur d'enfants. Et il s'est inspiré d'un petit article qu'il a trouvé. Et du coup, Les Griffes de la Nuit vient de ce personnage.
Voilà, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, hein, parce que ça... Voilà.
Alors, après, c'était aussi l'idée, c'est qu'on s'est rendu compte, en faisant un sondage, c'est peut-être beaucoup dire, un
mini-sondage
dans la famille autour de nous, auprès des copains, que finalement, c'est un film qui est ultra connu. Je pense qu'il n'y a pas de titre plus connu, enfin il y en a peu en tout cas qui soit plus connu que, alors pas Les Griffes de la Nuit, mais Freddy. Ouais. Freddy, c'est le personnage. Et finalement, peu de gens ont vu Les Griffes de la Nuit. Et quand on s'est en plus rendu compte qu'il avait été restauré, qu'on pouvait avoir une belle copie numérique du film, ça s'est vraiment imposé comme une évidence de le reprendre pour cette soirée-là, quoi.
Eh bien, on parlait tout à l'heure de La Cabane dans les Bois, hein, qui avait fait un petit flop. Voici un autre flop que vous allez quand même projeter.
Figure-toi qu'on a tous eu une petite idée.
Tiens donc.
Aller ensemble à Newton Haven.
Pourquoi?
Pour s'occuper d'une affaire qui n'est pas réglée.
C'est censé être drôle?
5 mecs plus 12 pubs égale 50 pintes?
60 pintes.
Oh, l'alcoolo, faut te raisonner, hein.
J'ai pas bu un verre ces 16 dernières années, Gary.
Comment tu dois crever de soif? On y va pour se voir, discuter le coup, on fera comme dans le temps. Sauf que là, on n'abandonne pas, on se le finit une bonne fois pour toutes.
T'as une mémoire très sélective, mon bon Gary.
Merci.
Tu te souviens des vendredis soirs? Je me souviens des lundis matins.
Ouais, c'est pour ça qu'on y va vendredi.
Et voilà, ça discute beaucoup autour de cette table du studio où nous parlons de la nuit fantastique. Donc là, c'est le dernier pub, avant la fin du monde. Film assez surprenant tout de même.
Oui, mais c'est même étonnant que le film n'ait pas marché, étant donné que leur premier film, Shaun of the Dead, avait été un carton. Et le concept est finalement assez proche. Hein. On remplace des zombies, on met des extraterrestres et puis on retrouve donc la veine des auteurs, hein, de Edgar Wright, et, le réalisateur, et puis avec les deux comédiens fétiches Je sais pas, je comprends pas trop parce que c'est un film assez.
La fidélité se perd. Voilà. On ne suit plus un réalisateur, c'est fini.
Non, mais c'est surtout que c'est bien gaulé, c'est drôle.
Bah oui, c'est drôle, en
voilà, ça fonctionne vraiment, quoi.
Mmh. Voilà. C'est, bah, c'est étonnant. Hein. Je me souviens de moi, je l'avais vu avec toi quand c'est sorti, et je ne savais pas du tout ce que j'allais voir, et j'étais assez surpris finalement, de voir que l'histoire vrillait complètement, voilà, à peu près au milieu du film. Moi, c'était pour moi totalement inattendu.
Oui, si on ne le sait pas, oui. Évidemment. Bon, après, moi, je le savais.
Oui, tu le savais, toi. Ouais.
C'est un peu l'invasion des profanateurs d'ailleurs, hein, la référence principale au film qu'on a failli passer.
C'est le film. Le regret, c'est celui-là. Ouais.
Allez, dernier film.
En y repensant, je comprends pas comment j'ai pu croire que c'était un meurtre.
Je vais m'approcher.
C'est bon, tu filmes ?
Tout ce que je peux supposer pour l'instant, c'est que quoi que ça puisse être, ça va continuer à dévorer la jambe ainsi que le genou et ça va certainement remonter vers la partie supérieure du corps pour attaquer les gonades. Je pense que nous sommes en présence de deux types distincts d'une sorte de parasite. C'est quelque chose, en tout cas, qui est littéralement en train de dévorer le corps du patient de l'extérieur.
Alors là, est-ce que c'est du fantastique ? Est-ce que ce qu'on vire vers le gore avec The Bay ?
Un peu vers le gore, mais c'est presque un film, je dirais, crédible. Enfin, réaliste, hein, on va dire. C'est un film d'horreur écologique, avec un discours assez pertinent, assez politique. Et c'est un film qui est réalisé sur le mode des found footage, mais pour une fois, je trouve que ça fonctionne admirablement. Enfin, c'est très intelligent, la mise en scène, elle est vraiment prenante. Enfin, et c'est surprenant que ce soit réalisé d'ailleurs par un vieux routier.
Mais voilà, mais ça fonctionne peut-être aussi parce que c'est lui.
Oui, non, il y a un vrai metteur en scène derrière.
C'est pas qu'un procédé, c'est qu'il sait quoi en faire et comment raconter quelque chose.
Oui, puis une façon d'utiliser beaucoup de sources d'images, pas simplement un caméscope, il y a aussi toutes les images de surveillance, il y a un travail de montage.
Voilà, il y a tout un tas de petites choses comme ça.
Et par contre, c'est assez gore. Hein.
Oui, c'est assez gore et là encore, je crois que ça n'avait pas du tout fonctionné. Hein.
Ah non, absolument pas. Ouais. Moi, j'ai même pas pu le voir.
Décidément, que de ratage.
Mais oui, mais heureusement qu'on est là pour donner la deuxième chance, tu vois.
C'est clair.
Au film.
Voilà, donc on a parlé des 5 films qui seront présents dans cette nuit fantastique. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter ? Donc, on a parlé aussi de ce qui se passera entre les films. Hein. C'est une soirée animée, finalement.
Oui, voilà. Non, après, ce qui va se passer très concrètement, c'est que les gens vont se pointer au cinéma avec leur place qu'ils auront achetée et puis un petit truc à manger, à partager. Le principe, c'est que toute la nuit, donc, le cinéma offre à boire du frais, du chaud et les croissants au petit jour. Et par contre, les spectateurs amènent à manger des trucs qui se partagent, des trucs qui, si en plus ils les ont fait eux-mêmes, c'est forcément encore meilleur. Et on met tout sur une grande table et entre chaque séance, on sort, on se délasse un petit peu, on mange un morceau et on y retourne. Donc ça c'est juste pour se redonner un petit peu de force. Et sur les animations elles-mêmes, puisqu'il va y en avoir quelques-unes, on a aussi suggéré fortement aux spectateurs de se déguiser, parce que on pouvait éventuellement élire
le meilleur déguisement
soir, par exemple, mais sans dress code particulier. Ça, voilà, c'est
L'homme poisson, oui.
Chacun fait exactement quoi qu'il veut, et puis 2 ou 3 autres petits trucs qu'on a, mais voilà, c'est pas encore suffisamment bien. Faut qu'on se dépêche, hein, c'est dans 3 jours.
C'est dans 3 jours, c'est samedi.
On sera au taquet.
Et on fera gagner quelques DVD aussi. Donc d'Artus Film et Le Chat qui fume.
Donc c'est, on précise juste l'heure avant de passer au blind test. 21h. Donc ce samedi 22 février au cinéma Utopia.
Cinérama.
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Nous allons jouer avec notre invité, donc Arnaud, qui est le directeur du cinéma Utopia à Montpellier, pour bien lui faire écouter des films qu'il a projetés l'année dernière, l'année 2013. Mais c'est du très très facile, ce ne sera pas Météora de Spiros Statulopoulos. Voilà, déjà il ne sera pas dans la liste.
J'ai eu envie de la tuer, Morgane, ce soir, elle est pénible, non ?
La Johanna aussi, hein, à sa façon, mais c'est des enfants, quoi. Les enfants, c'est pénible. Si tu te sollicites tout le temps, t'as pas une seconde à toi, c'est abrutissant. Tu répètes 1000 fois la même chose, c'est du dressage, quoi. C'est chiant, on peut pas dire le contraire. Enfin, je veux dire quand on regarde les choses à plat.
Ouais, à plat, c'est comme ça.
C'était à la rentrée.
Et oui, c'était à la rentrée, oui, c'était janvier ou février. Hein. C'était au bout du compte, non, c'était février que c'est sorti. Au bout du compte, Daniel Jaoui, on a bien reconnu Bakri. Donc c'est trouvé, hein, voilà. Deuxième extrait.
Alors c'est trois grenouilles qui sont sur un rail de chemin de fer.
C'est ça un rail de chemin de fer.
Trois grenouilles qui se promènent sur un rail de chemin de fer. Et il y a un train qui arrive et la première elle fait attention, il y a un what un... T'es compris?
C'est pas mal. Ouais.
Alors, c'est une blague. C'est une blague. Hein. Voilà. Oui, ça, ça, c'est cadeau. C'est Audrey Tautou. Et ce.
Et là, ça... ça s'appelle un grand moment de solitude.
Alors, le film est ressorti. C'est avec
C'est l'écume des jours.
Voilà,
hein.
Voilà. D'accord. Le film est ressorti tronqué de 20 minutes avec un nouveau montage. C'est le film de Michel Gondry, L'écume des jours.
Que j'ai vu pourtant.
Bah oui,
la blague de la grenouille sur le rail.
Mais c'est pareil, Cinérama fait revivre les films.
D'accord, mais c'est très bien. Il faut... Surtout ce film qui a franchement été, je trouve,
mal accueilli.
Injustement flingué par la critique, qui a quand même pas trop mal marché en salle, mais j'étais assez effaré par la violence des attaques contre Gondry. Voilà, mais...
Fais gaffe, il n'y a pas que le cul dans la vie.
Mais c'est pas que le cul avec lui.
Bah, si vous passez pas vos nuits ensemble, c'est quoi? J'en sais quelque chose. Tu vois, il y a même pas deux ans, je crois que ça m'intéressait carrément pas d'avoir des rapports autres que sexuels. L'histoire d'amitié, ça me gonflait, je trouvais ça sans intérêt. Maintenant, tu peux pas savoir comme ça te fait chier de pas te voir pendant un jour. Quand je te vois arriver là-bas, j'ai le cœur qui se serre. Comme quand je suis amoureux. Tu vois un peu? Et pourtant, j'ai pas du tout envie de coucher avec toi. Toi aussi, t'as envie d'être avec moi. Mmh. C'est pas pour me baiser, j'imagine. Non. Dormir seul, bouffer seul, tout faire tout seul, ça commence à devenir pénible. Et tu vois, je me demande,
c'est voilà, c'est une longue séquence, plutôt intéressante. Ça a été trouvé par Manu, parce que Arnaud, toi, tu ne l'as pas vu.
Même moi non plus, hein. Mais l'inconnu du lac, par déduction.
L'inconnu du lac, film de Philippe Guiraudy. Voilà, Alain Guiraudy, à chaque fois je l'appelle Philippe. Alain Guiraudy, qui est le film préféré de Louise Bourgoin, c'est ce qu'elle a dit l'autre jour.
Voilà. Super bon goût, Louise Bourgoin, il n'y a pas de doute.
Effectivement. Ouais. Allez, un autre extrait.
Tu travailles pour Est-ce que tu crois sérieusement qu'il t'aurait laissé gérer ça tout seul? Après que t'aies permis qu'ils organisent un vote? Attends, les compagnies comme Global n'ont confiance en personne. C'est ça leur force. Ils gagnent parce qu'ils contrôlent tous les aspects d'un seul problème. Et ils arrivent à le faire en se battant dans les deux camps.
Alors ça c'est très attaché, je pense, à Utopia, qui a quand même parfois un côté un peu engagé, pour pas dire militant. Un film d'un grand réalisateur avec Matt Damon.
Ah, le film de Gus Van Sant.
Oui. Film de Gus Van Sant.
From Iceland.
From Iceland, voilà. Ouais, enfin, autour du gaz de schiste, ouais, voilà. Pas vu?
Pas vu non plus. Mais en fait, pour rebondir sur ce que tu disais au tout début, t'aurais plus de chance en me passant des extraits des films grecs.
Ah oui, mais ça, c'est compliqué parce qu'on n'a pas la VF.
Mais j'entends bien. J'entends bien le problème.
Je sais quoi faire. Je vais le faire arrêter.
Il dira rien.
S'il croit que ça vient de moi, il pourrait parler. Et on va s'arranger pour qu'il se dispute avec une pute à l'hôtel. Et les hôtels détestent les bagarres. Ils vont le faire arrêter et les flics le remettront en taule pour un moment.
Non, c'est pas très sympa.
Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour lui. Il aura pas assez d'alcool en taule pour se tuer. Mais s'il va pas en taule, lui, il nous tuera.
Et ce sera combien pour la fille?
$500, peut-être 1000.
Oh là là.
Oh, $1000.
Oh non, là, il me faut le raccord. Mais si je reviens à chaque fois avec une mauvaise nouvelle, ça va les énerver.
On a eu des petits problèmes.
On n'est pas censé en avoir ni des petits ni des gros. Un point, c'est tout.
Voilà, alors là, c'est la voix française de Brad Pitt. Hein. Brad Pitt qui rencontre un homme à chaque fois dans une voiture. À chaque fois, il est obligé de lui annoncer qu'il faut qu'il aligne encore un peu plus d'argent pour éliminer un type. Enfin, plusieurs types. Killing Them Softly de Andrew Dominik. Enfin, moi, j'ai trouvé...
Alors que j'avais vu, mais...
Énorme.
Oui, tout à fait, voilà. Absolument. Absolument.
Voilà, donc la petite
Après,
séquence.
Moi, la vision du film remonte à mai 2000.
C'est en 2012.
Au passage à Cannes.
Ben oui, mais il a été
mai 2012, ouais.
Diffusé. Enfin, il me semble, je l'ai trouvé dans les archives
fait,
de l'Utopia.
Ouais.
Allez, un facile.
Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit.
Mangez, ça va être froid.
Bon appétit.
Et voilà, c'était donc
La vie d'Adèle.
La vie d'Adèle, voilà, des petits bruits de bouche. Et comme Bruno est inquiet et qu'on est très à la bourre, on ne passera pas l'ultime extrait qui était aussi La vie d'Adèle, mais avec un extrait un peu plus facile à reconnaître, puisqu'il était question. Enfin, voilà,
bon. Non, mais bon appétit, c'est
bon. Bon appétit, ça suffit. Voilà. Merci Arnaud hein, d'être passé.
Non, mais de
passé.
Rien, c'était un plaisir.
Et puis donc, on rappelle cette nuit fantastique, ce samedi. Ouais. Et puis, on rappelle aussi qu'il y a plein de petites choses à découvrir au cinéma Utopia qui sont un peu différentes.
Ah oui,
de ce qu'on peut...
juste par rapport au cinéma fantastique français qui n'existe pas, nana. Je vous parlais tout à l'heure d'une suite de deux moyens-métrages qui sortent couplés. Ça s'appelle Le Kepa sur la Vilnie. Et objectivement, c'est du cinéma fantastique français qui est d'une fraîcheur et d'une inventivité, d'un enthousiasme absolument incroyable. Voilà, le titre est totalement imbitable. Le Kepa sur la Vilnie, c'est totalement irracontable, mais ça fait un bien fou.
Avec Bernard Hinault, Bernard Ménez et Christophe.
Et Christophe.
On passe à l'agenda.
Cinérama.
Ça ne vous gêne pas si je prends quelques petites notes.
Alors ce sera au Diagonale ce soir. Il faut se dépêcher hein, pour la rediff puisque c'est à 18h, c'est la Strada de Federico Fellini. Ensuite, ce soir à 20h, ce sera Manu Payet qui sera présent au Gaumont Multiplex pour Relations amoureuses, c'est compliqué, qui est franchement l'une des comédies les moins lourdes que j'ai vues en ce début d'année par rapport à celle de Danny Boone. Enfin voilà. Au Diagonale, jeudi 20 à 19h55, c'est Regards sur le cinéma algérien avec Mon ami, mon double de Ali Mouzaoui, et le réalisateur sera présent. À l'Utopia, le même soir à 20h, il y aura le chanteur de jazz, un vieux film de 1927.
Pareil, un film ultra connu que personne n'a jamais vu en fait, n'a jamais vu en salle en tout cas. Le premier film parlant de l'histoire du cinéma.
Et ce sera l'occasion d'en parler aussi avec Marc Vernet, qui est professeur en études cinématographiques à Paul Valéry. C'est dans le cadre jazz et cinéma. Ensuite, au Gaumont Multiplex et aux comédies, il y aura Non-Stop, dernier film avec Liam Neeson. Le dimanche 23 février au Diagonale à 11h, ce sera La Cour de Babel de Julie Bertuccelli. Au Diagonale, lundi 24 à 19h50, encore Regard sur le cinéma algérien avec La Colline oubliée, grand film de Abderrahmane Bouguermou. Et il y aura encore Ali Mouzaoui, qui était ami avec le réalisateur, qui viendra parler de ce grand film. Et puis au Gaumont Comédie, mardi 25, ce sera l'avant-première de Diplomatie, le dernier film de Volker Schlöndorff.
C'est l'or, il est l'or.
Il n'y en a pas pour longtemps. Bien, ouvre tes oreilles.
Sors de ta connerie, sacré bon Dieu! Sinon, moi, je te dévisse la tête et je te chie dans le cou!
Ça doit être une erreur dans l'enchaînement des flashbacks. Ça devrait pas trop durer.
La semaine prochaine, Marine sera de retour parmi nous. On pourra écouter aussi Danny Boone qui parle de cinéma et de scénario. Il a appris à faire du scénario aux États-Unis. Voilà, c'est ce que je rapporterai. Et sinon, 24 notes secondes.
C'est le compositeur Alex Norse.
Merci à Arnaud.
Merci.
Et à une prochaine fois.
Merci à vous.
Cinérama.
Il n'y a que des combines, il n'y a pas de héros, rien que des combines. Il n'y a pas de gagneurs, rien des combines et de la merde. Il n'y a pas de saints, il n'y a pas de génie, rien que des combines et des contes de fées, ça fait durer la partie.
Sur Divergence FM. Divergence.